Et c'est l'heure du journal avec Benoît Mouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour. À l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui le premier jour d'examen en séance des textes de loi de moralisation de la vie publique. Ces deux projets de loi modifient les règles de financement des partis et des campagnes électorales. Ils prévoient également des mesures pour mettre un terme aux conflits d'intérêts, notamment autour des activités de conseil. Ils modifient également les règles en ce qui concerne les embauches de collaborateurs, de parlementaires et de membres du gouvernement. Et alors que ce projet de loi emblématique du début du quinquennat Macron poursuit son chemin législatif, certains pointent ce qu'ils pensent être une contradiction. En effet, l'opposition estime qu'Emmanuel Macron ne s'applique pas à lui-même ce qu'il exige des autres en tentant de mettre en place un statut officiel pour la Première Dame. Explication d'Ilan Malka.
C'est l'une des promesses de campagne du président Macron. La première dame doit avoir désormais un statut officiel. Il faut encadrer précisément ses fonctions. Au même moment, la loi s'apprête à interdire aux députés de travailler avec des membres de leur famille. Y a-t-il là une contradiction ? Oui, selon de nombreux députés, Éric Coquerel est membre de la France Insoumise.
C'est-à-dire que je vois pas pourquoi on autoriserait quelque chose au président qu'on interdit aux députés, ça c'est clair. Toutes les femmes de président, excusez-moi, n'ont pas eu de rôle politique, elles n'ont pas cherché comme telles, à commencer d'ailleurs par celle qui fut l'épouse du premier chef de l'État, je parle du général de Gaulle. Où a-t-on été voir que les Français réclament aujourd'hui que la femme du président qui n'a pas été élue ait un rôle politique ? C'est une vision très monarchique du pouvoir.
Du côté de La République En Marche, on estime que les deux cas, celui du député et du président, ne sont pas comparables. Olivier Véran est député LREM de l'Isère.
La première dame, elle existe de fait. D'ailleurs, elle existe dans la plupart des démocraties de l'Europe. Conjoints, conjointes de présidents de la République sont amenés, par exemple, à effectuer des déplacements officiels à l'étranger, à recevoir également. On l'a vu lorsque la première dame en France recevait la première dame américaine. Donc, dès lors qu'il y a une activité, c'est bien de l'organiser, de la décrire. En l'occurrence, ça ne donne pas lieu à rétribution, à rémunération. Ça ne donne pas d'avantages particuliers. C'est pour que les choses soient transparentes, carrées, claires pour tout le monde.
On ne connaît pas encore les dispositions précises de ce statut de la première dame. Brigitte Macron, cependant, a manifesté le souhait de s'investir dans des domaines comme l'éducation ou le handicap.
La reprise et l'avenir de GMES au menu du tribunal de commerce de Poitiers aujourd'hui. Il doit statuer sur la seule offre de reprise de l'équipementier encore existante. Le sort des salariés du deuxième employeur privé de la Creuse est suspendu à cette décision attendue en fin d'après-midi. Une décision qui arrive après des mois de mobilisation, de blocage et de négociation. Maxime Deps.
Ce dossier, c'est d'abord de l'indifférence au départ et une menace au printemps. Après des mois de mobilisation sans résultat, les salariés décident de piéger leur usine. Si personne ne fait rien pour eux, ils feront tout sauter.
Si c'est liquidé, regardez les bonbonnes de gaz. Nous, on est nés avec cette usine, on crèvera avec.
Des politiques longtemps muets viennent alors au chevet des ouvriers. Acclamé, Jean-Luc Mélenchon se rend à la souterraine. L'ex-candidat à la présidentielle s'en prend aux constructeurs PSA et Renault, accusés de les laisser tomber, et à l'État actionnaire qui resterait les bras croisés.
Il faut arrêter de dire « j'y peux rien, je sais pas quoi, la mondialisation, blablabla ». Bon sang, c'est le moment de montrer un peu de caractère.
L'exécutif interpellé, Renault et PSA finiront par augmenter le volume de leurs commandes. Mais le dossier patine, toujours pas d'offre claire sur la table. Un possible repreneur qui se fait désirer. Au sortir d'une énième réunion à Bercy, Yann Ogra de la CGT hausse le ton.
On t'apprend n'importe où, dans n'importe quel coin de la France. Ça sera stopper le Tour de France, ça sera les défilés au 14 juillet. Ça nous pose aucun problème.
14 juillet et Tour de France seront au final épargnés. Une usine Renault bloquée à la place. Dans la tempête, le ministre Bruno Le Maire tente de rassurer.
Il n'y a pas un salarié qui sera laissé de côté.
Dans le meilleur des cas, seuls 120 salariés pourraient être sauvés à moins que la liquidation sèche ne soit prononcée. Une possibilité que personne n'ose seulement imaginer.
Maxime Deps. Réunion de crise à l'ONU aujourd'hui à l'appel de la France, de la Suède et de l'Égypte. Le Conseil de sécurité doit se pencher sur le cycle de violences meurtrières en cours au Proche-Orient. Pour les seules journées de vendredi et samedi, ces violences ont fait 8 morts. Elles sont liées au contrôle institué par Israël aux abords de l'esplanade des mosquées. Ce matin, on apprend que l'émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, est en route pour Israël. Il doit tenter d'apaiser les tensions. Sur le plan intérieur, c'est une semaine à risque qui débute pour le président américain. Plusieurs de ses proches vont être entendu par le Parlement, par les parlementaires dans le cadre de l'enquête sur ses liens supposés avec la Russie. Au centre des interrogations, une réunion organisée l'été dernier en pleine campagne électorale par l'un de ses fils. À New York, les précisions de Daniel Hoffman.
Que s'est-il dit le 9 juin 2016 au 25e étage de la Trump Tower dans le bureau du fils aîné du président américain ? C'est l'une des questions auxquelles va devoir répondre Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui a participé il y a un peu plus d'un an à ce rendez-vous entre des membres de l'équipe de campagne de Trump et une avocate russe censée détenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Kushner va être entendu deux fois cette semaine par les parlementaires américains, aujourd'hui par la commission du renseignement du Sénat et demain par celle de la Chambre des représentants. Des interrogatoires qui se feront à huis clos et durant lesquels Kushner n'aura pas besoin de prêter serment. Mercredi, la commission judiciaire du Sénat souhaite entendre Donald Trump Jr. et l'ancien directeur de campagne de son père, Paul Manafort, lors d'une audition publique. Mais pour l'instant, les deux hommes temporisent. Ils ont seulement accepté de fournir des documents relatifs à leur lien avec la Russie et d'être interrogés en privé. Pas satisfaisant, estiment plusieurs élus démocrates qui menacent de faire usage de leur pouvoir d'injonction et donc de forcer Trump Jr. et Manafort à se présenter devant le Sénat.
C'est une semaine décisive qui s'ouvre également dans la crise au Venezuela pour tenter de bloquer le vote prévu dimanche prochain, censé doter le pays d'une assemblée constituante. L'opposition multiplie les actions. Elle a lancé un appel à la grève générale pour 48 heures mercredi et jeudi et elle espère organiser une grande manifestation à Caracas vendredi, ce qui n'impressionne pas Nicolas Maduro, qui hier dans son émission à la télévision a une nouvelle fois accusé les États-Unis de tirer les ficelles de cette crise. À Tunis aujourd'hui, une réunion cruciale pour tenter d'avancer des solutions sur la crise des migrants. Les ministres de l'Intérieur européens et nord-africains se réunissent. C'est le groupe de contact avec l'espoir de baisser le nombre de morts en Méditerranée. Gérard Collomb fera le déplacement. 2017 est en passe de devenir l'année la plus meurtrière pour les migrants en Méditerranée. Un attentat à la voiture piégée a fait plus d'une vingtaine de morts ce matin à Kaboul et plus d'une quarantaine de blessés. Le bilan est encore imprécis. Il est communiqué par le ministère de l'Intérieur afghan. C'est un quartier à majorité chiite qui a été visé dans l'ouest de la capitale afghane. Au Yémen, la situation sanitaire empire encore. C'est désormais le choléra qui menace. En guerre depuis plus de deux ans, le pays pourrait avoir affaire à une épidémie considérable. Près de 600 000 personnes pourraient être touchées par le choléra cette année. Chiffre du Comité international de la Croix-Rouge. Pour Soumaya Beltifa, la porte-parole du CICR au Yémen, cette épidémie sera très difficile à enrayer.
En fait, la situation elle est très alarmante. C'est la destruction des flottes d'égouts et des stations, en fait, de traitement des eaux qui a entraîné en grande partie la propagation rapide du choléra. Le Yémen subit une guerre depuis plus que deux ans qui a vraiment affecté les systèmes d'eau et de sanitation. Ajouter à cela le fait qu'il y a moins de 45% des structures médicales qui sont opérationnelles ou partiellement opérationnelles dans le pays. Beaucoup de déchets alimentaires, de déchets ménagers qui sont un peu partout dans les rues et les ruelles des villes et des gouvernorats du Yémen. Tous les efforts confondus des différents acteurs humanitaires au Yémen ne peuvent pas subvenir aux besoins. Les besoins sont inimaginables, elles sont énormes.
Les propos recueillis par David Ravier. Un temps souvent pluvieux aujourd'hui avec des averses parfois importantes et localement orageuses, des températures stables, ce sont les prévisions de Météo France, température maximale 21 degrés au nord, 32 degrés au sud.